La Grange aux Chimères nous propose ses lectures de nouvelles, des nouvelles tout droit sorties de son nouveau concours de nouvelles 2022. Le thème cette année était l'inconnu. L'inconnu, une notion délicate à retranscrire sous forme d'icône culturelle, sauf à poser un grand point d'interrogation, tellement métaphysique. Dans cette époque d'information permanente, à l'heure où toute connaissance, tout savoir est à portée de main, où toute rencontre peut se provoquer, que nous reste-t-il d'inconnu? Et plus encore, que reste-t-il d'inconnaissable? Tel est donc le thème de cette année du concours de nouvelles, proposé donc par La Grange aux Chimères, à Corps, et un thème proposé par Colline. Écrire une nouvelle est stimulant, valorisant et amusant. C'est aussi un moyen de questionner et de se questionner, de découvrir et de se découvrir. À chacun de trouver son style. 12 participants ont répondu présents à cette invitation d'écriture et voici donc leur regard sur l'inconnu. Je vous laisse savourer leur création. Aujourd'hui, c'est jour de remise des prix à la Grange aux Chimères, prix remis aux 12 participants de l'année. Frédéric demande aux écrivains donc présents ce jour-là ce qu'est pour eux l'inconnu. Puis Alain Courbier nous lira sa nouvelle « L'inconnu », ainsi qu'Olivier Auré qui lira sa nouvelle « André Casse, lettre à sa nièce ». Le tout ponctué par « Le dormeur du Val » et « Le déserteur » par Serge Reggiani. Et le premier mouvement Allegro Molto du concert champêtre pour clavecin et orchestre de Francis Poulenc.
Olivier, c'est quoi pour vous l'inconnu ?
Quelque chose qui me laisse sans voix. Par définition, l'inconnu, qu'est-ce qu'il y aurait comme mot pour le dire? Donc, on va remplacer par indicible.
L'inconnu, pour moi, ça aborde, et plus particulièrement en ce moment, vraiment un domaine métaphysique. C'est quelque chose d'infini, de global. Et c'est pour ça que j'ai fait l'introduction de la version papier du concours de nouvelles en disant que c'est une notion très délicate à retranscrire. Sous forme d'icône culturelle, par exemple, sauf à poser un grand point d'interrogation, je rejoins Olivier, et le point d'interrogation, c'est bien métaphysique, quoi. C'est bien notre devenir tout entier qui tend ses antennes vers cet inconnu qu'on espère forcément lumineux, forcément plus agréable que ce qu'on vit. Et c'est un symbole. C'est un symbole. Voyez, relisez Jung.
Je vois l'introduction là. Comme tout est fabriqué en Chine de notre époque, l'inconnu, bah parfois c'est du chinois.
Colline, pour toi l'inconnu c'est quoi ?
L'inconnu déjà c'est une question. C'est la question que j'ai posée à tout le monde. C'est une question que je trouve qu'il faut se poser. Qu'est-ce que c'est l'inconnu ? Et l'inconnu c'est ce qu'on ne connaît pas encore, ce qu'on ne connaîtra peut-être jamais, ce qu'on cherche à connaître. C'est une chose qui n'existe pas encore pour nous, mais qui peut exister pour peu qu'on veuille bien la rencontrer.
Alain, c'est quoi pour toi l'inconnu ?
Alors bon, je pense que Colline a donné une bonne définition par rapport à ça, puisque c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Mis à part ce fait, est-ce qu'il faut aller vers l'inconnu ou est-ce qu'il faut aller, justement, ne pas aller vers l'inconnu et garder nos connaissances ? C'est tout ce qu'il y a de confiance en soi ou de non-confiance en soi.
Elisabeth, c'est quoi pour toi l'inconnu ?
Je pense que l'inconnu, c'est lié au mystère aussi. C'est-à-dire tout ce que je ne sais pas, tout ce que les autres ne savent pas, et puis aussi les choses que les autres savent et que moi je ne sais pas, et que pour eux, ce que je connais, ça peut aussi leur être inconnu. Mais après, évidemment, il y a toute la notion, effectivement, métaphysique, hein, qui veut que, bah, ici sur Terre, on ne sait pas grand-chose, coincé dans nos trois dimensions. Donc voilà, à notre mort, on aura peut-être la révélation de ce grand point d'interrogation qui est au-dessus de nous et qui nous trimballe de vie en vie.
Elisabeth également, c'est quoi pour vous l'inconnu ?
Ben, pour moi, l'inconnu, en fait, c'est tout et n'importe quoi, c'est tout. On croit connaître des choses, et puis des fractures se présentent, et en toute chose, un jour, on se prend la tête et on dit « Mais je ne connais pas, je ne le connais pas, je ne la connais pas, j'y comprends rien. » Donc en fait, l'inconnu, c'est sous une apparence connue, il peut se cacher l'inconnu. Et l'inconnu, pour moi, c'est un moteur. C'est quelque chose, quand on reconnaît la part inconnue de tout, c'est un moteur pour tendre à atteindre un peu de connaissance. Bon là, je veux dire mon petit couplet, hein. C'est comme la démocratie. C'est posé sur la ligne d'horizon, on s'efforce de l'atteindre, ça nous met en tension. Mais en fait, il n'y en a pas vraiment. Alors, il n'y a pas vraiment de connu, pas vraiment d'inconnu. Et sinon, si je prends par un abord contraire, hein, si je n'ai pas encore perdu tout le monde, il y a un inconnu plus radical, c'est de dire d'un domaine, ah non, mais là, je n'y comprends rien, je n'y entends rien, je n'ai même pas essayé de voir. Pour moi, c'était par exemple la musique. D'emblée, c'est radical, ça, j'y connais rien. Ça, je sais que... Bon. Et alors, à nouveau, peut-être, un rideau peut s'ouvrir, on se penche, et parfois, on a des grandes surprises. Parce que ça vient toquer à des choses en nous, et finalement, c'est pas inconnu. Voilà, dans les deux cas, ça se renverse. Voilà, merci.
L'inconnu. Il était parti par un beau matin d'été. Brandissant une fleur, il avait rejoint un groupe de copains et ensemble, ils prirent la route. Tantôt en train, tantôt à pied, et une fois même en taxi, ils parcoururent la campagne par monts et par vaux, couchèrent à la belle étoile ou dans des granges, rarement dans des lits. Cette randonnée les mena aux confins de l'horizon. Mais, à un moment donné, le temps se gâta. Ils durent trouver un abri sous terre. Le tonnerre grondait, les lumières éclairaient les ciels nocturnes. Les éléments déchaînés s'éternisaient autour d'eux. La peur les envahissait progressivement. Cette randonnée qui devait être de courte durée, où tous étaient partis le sourire aux lèvres, s'enlisait. Les sourires avaient disparu. Les barbes mangeaient les visages. Les traits étaient tirés. Certaines figures s'étaient même complètement évaporées du paysage. Parfois, certains tentaient une sortie du terrier dans lequel ils s'étaient retranchés, mais chaque fois, certains d'entre eux ne revenaient pas au gîte. Un jour, ce fut le tour de l'inconnu, à ne pas rentrer avec les autres. Certains de ses camarades partirent à sa recherche. Soudain, alors qu'ils débouchaient sur un champ, ils le virent, plus bas, allongé sur le dos, un coquelicot rouge recouvrant son cœur.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans les frais cressons bleus, dort. Il est étendu dans l'air, sous la nue, pâle sur son hiver, où la lumière bleue. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Monsieur le Président,
je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
André Casse, lettre à sa nièce. Ma chère nièce, tu ne m'avais pas écrit depuis longtemps et je suis heureuse de te savoir toujours attentive aux caractéristiques de ton époque et désireuse d'en conférer. Je constate avec bonheur que, malgré les risques d'indigestion, ton appétit d'apprendre ne faiblit pas, bien que le procédé d'information permanente que tu évoques puisse être comparé à du gavage. C'est vrai car, si tu le souhaites, un flot continu de paroles se déverse partout, 24 heures sur 24, grâce aux applications que tu as pu télécharger sur ton mobile. Tu n'as qu'une formule à prononcer pour que, de lui-même, ton smartphone se branche sur telle station de radio ou de télévision et te répète jusqu'à la nausée ce à quoi tu dois penser aujourd'hui et que tu oublieras demain. Te rappelles-tu qu'un jour cette information t'incitait à faire valoir tes droits à la formation ? Cependant, tu me troubles l'esprit en présentant des contenus incommensurables, toute connaissance ou tout savoir, et tu les associes à des contenants de capacité ridicule, l'heure, la main, toute connaissance en une heure, tout savoir en un creux de main. Et encore, tu ne m'as pas précisé l'heure de ce rendez-vous avec la connaissance. Quant au savoir à portée de main, ah oui, cette main qui se porte au front dans la pose immortalisée du penseur, voulais-tu peut-être me suggérer avec tes scrupules à ne pas vouloir paraître trop intellectuel. De mon point de vue, si tu me permets cette remarque, le savoir et la connaissance devraient plutôt être à portée de cerveau, elle. Si en plus je me lance dans l'écriture inclusive, tu vas croire que ta vieille tante se dévergonde, grammaticalement, s'entend. Puis tu évoques la rencontre comme une provocation en duel de deux inconnus, inconnus l'un pour l'autre, car s'ils s'étaient vraiment connus, il n'aurait peut-être pas provoqué cette rencontre funeste sur le pré. Par exemple, Évariste Galois aurait pu plus longtemps se divertir avec les inconnus. Que nous reste-t-il d'inconnus ? Me demandes-tu pour suivre, comme si tu avais déjà répondu de tout ton être à l'injection de Socrate t'invitant à te connaître toi-même. Vois-tu, je n'hésite pas à entrer sans embâche dans le vif du sujet. Or, je sais que tu n'as pas pu faire ta propre connaissance. Pas plus d'ailleurs que quiconque sur cette planète n'a pu réaliser ce tour de force de se connaître soi-même. Car résoudre l'énigme du « qui suis-je » rendrait l'existence sans intérêt, tu n'aurais plus ni quête ni but. Qu'espérerais-tu encore ? Si jamais les terrae incognitae de nos lacunes sont un jour explorées, il reste encore pour frissonner comme au bord d'un puits sans fond l'inconnaissable, qui par essence restera impénétrable, mais visible. Regarde-toi longuement dans un miroir et interroge-toi. Qui t'a donné ce corps ? Les traits de ton visage ? La couleur de tes yeux, de tes cheveux, de ta peau. Rien que cela, qui, ce me semble, pourtant te regarde. Allons, approche-toi encore du miroir, jusqu'à ce que ton haleine y fasse un peu de buée. Plonge-toi dans tes yeux, scrute et scrute encore. Peux-tu pénétrer ton être et dire en toute certitude qu'au-delà de ce regard où tu te rencontres toi-même, et là tu es duel, tu vois une âme, âme qui vive, puis le simple cri de la sentinelle, qui vive, écho, reflet, illusion. Je te dis tout cela car de mon point de vue, tu risques pire qu'une désillusion un jour. Il suffit, paraît-il, qu'une tempête solaire un peu plus puissante qu'à l'accoutumée, et sur Terre, toutes les communications pourraient s'en trouver perturbées. Plus près de nous, il se passe aussi ceci. Deux élévates en guerre pourront se vanter de verser de l'huile sur le feu, pour être à la page. Le nom de Tugan Sokiev ne te dit sans doute pas grand-chose, pardonne-moi si je doute un peu de ta culture, mais il est peut-être le signe annonciateur d'événements plus graves à venir, un peu comme le petit morceau de plâtre qui se détacherait d'un plafond dont on n'aperçoit pas encore la fissure, alors que l'édifice qui t'abrite est déjà ébranlé par le passage des chars lourds de l'armée ennemie ou le bang d'un missile supersonique. Ou la vétusté. Ou un phénomène naturel, si cela t'effraie moins. Tugan Sokiev, pour en venir à lui, est chef d'orchestre et russe, comme son nom l'indique, ce qui, en ce moment, est condamnable et expose à des sanctions, d'autant qu'il se partageait entre l'orchestre du Capitole de Toulouse et l'orchestre du Bolchoï à Moscou. Or, les politiciens s'en prennent aux artistes, car si l'art n'a pas de patrie, les artistes en ont une. Je ne sais à qui attribuer cette remarque qui n'est pas de moi. Et on lui a demandé de s'exprimer sur la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Je passe sur l'identité du « on » et j'admire l'euphémisme plein d'honnêteté intellectuelle qui consiste à lui enjoindre de s'exprimer. N'ayant aucune envie de répondre à l'injonction de l'édile toulousain, bon, voilà qui est dit, Tugan Sokiev a préféré résigner ses deux fonctions de manière à ne pas choisir entre, je cite, « ces musiciens russes et français bien-aimés ». Fin de citation. Nous voici comme revenus plus de 100 ans en arrière, vers 1915 ou 1916, quand Camille Saint-Saëns, haute autorité musicale française, réclamait l'interdiction de la musique allemande dans les salles de concert parisiennes. Il visait principalement Wagner, mais avait aussi réservé un traitement spécial à l'innocent Robert Schumann, mort bien loin des tranchées en 1856, avec une phrase pleine de fiel faisant allusion au poison de l'âme allemande dont sa musique regorgeait et dont il fallait protéger l'âme française. Ainsi, les choses s'enveniment, cette fragile construction humaine, ce réseau grâce auquel tu crois que tout savoir nous est accessible, peut alors faire les frais d'une cyberguerre. En sommes-nous d'ailleurs si loin, les hackers russes étant peut-être en embuscade, n'attendant que les ordres ultimes. Imagine la panne, ou le blocage, et là, le chaos qui s'ensuivrait. Même toi, tu céderais à la panique en voyant que toute la confiance que tu avais mise dans les nouvelles technologies. C'est comme si tu avais mis tous tes œufs dans le même panier, ou que telle perrette et son pot de lait, tu avais trébuché sur ton chemin, pourtant tout tracé et libre de tout obstacle, en apparence. Il ne faut pas se fier aux apparences, bien qu'en même temps la réalité ne nous parvienne que sous forme d'apparence, ta propre image dans le miroir, par exemple. Ton narcissisme inné fait que tu aimerais te rejoindre par-delà le miroir, mais tu n'as pas la chance d'être un être imaginaire comme Alice, et devant le miroir, il te faut bien admettre que ton reflet n'est qu'une marionnette reproduisant scrupuleusement tous tes gestes, à moins que ce ne soit toi la marionnette, reliée par le fil de la vie à tu ne sais quelle réalité qui préside à ton destin. Ah, tu voulais de l'inconnaissable ? Eh bien, voici. Quand je dis « tu voulais », je pourrais dire plus. Cet inconnaissable, Tu le désires ardemment plus que tout autre amant, car tu sais qu'il est la clé de ce mystère sans limite de la totalité universelle dont tu es une infime parcelle consciente. Et cet inconnaissable, ne l'as-tu pas plus d'une fois imploré de se dévoiler pour qu'enfin un sens inaltérable, vénérable, exaltant soit donné à ta vie, que tu puisses enfin t'aimer toi-même parmi d'autres aimables? Tu saurais enfin qu'il ne serait pas vain d'éprouver ce que ta sensibilité éprouve et dont à chaque instant tu es le jouet et dont dépendent tes humeurs et par conséquent dont dépend aussi la valeur que tu accordes aux épisodes de ta vie. L'impensable, l'indicible, l'impossible, l'inconnu, l'inconnaissable. Oh, quel domaine fascinant, quel mystère absolument insondable. Petite puce excitée, va. Ta curiosité est telle que tu en demandes des nouvelles. Pourrons-nous satisfaire à ta demande? Quel bataillon de scrutateurs répondra à ton appel? Non, ce ne sera pas en bataillon discipliné, mais en ordre dispersé, si je puis dire cela d'un ordre. Car nous répondrons à ta demande express, chacun du fin fond de notre création. Pluralité des mondes oblige. Nous mettrons chacun notre regard à ta disposition. Pour pallier ta cécité supposée, je présume, puisque le regard d'autrui te semble nécessaire pour avancer dans l'obscurité de ton ignorance, à moins que tu ne te sois bandé les yeux pour jouer à Colin-Maillard. Il n'y a pas d'âge pour y jouer. À la cour de nos abhorrés rois, les dames plus âgées que toi s'y adonnaient avec des frissons de petites filles délicieusement apeurées. C'est ainsi, en tâtonnant, que tu tenteras de t'y reconnaître, de t'y retrouver, et de nommer ce que ta main a rencontré qui a bien voulu virevolter vers toi pour se laisser deviner. Mais le jeu, à ton insu, te conduit hors de sentier battu, et ce qui vient à ta rencontre est innommable car inconnu. Mais c'est bien ce que tu voulais, non? Alors tu arraches le bandeau te recouvrant les yeux, et ne reconnaissant rien de ce en quoi tu flottes, tu en prends ton parti, courageusement, et tu t'abandonnes à une apesanteur ouatée, tiède et vibrante. Rêve ou cauchemar, ou un peu des deux, cela reste indéfinissable. T'attendais-tu à cela? Pas vraiment, car le monde d'où tu viens est habituellement plus rude, plus lourd même à l'élévation de l'esprit. Ton quotidien est fait de sérieuses trivialités qui t'obligent à penser d'abord à payer ton écho pour alimenter un fleuve de richesse, celui qu'on appelle le pactole, auxquels s'abreuvent les quelques puissants pour qui la terre est une cour de récréation. Et le temps qu'ils y passent, une vaste partie de rigolade, tandis qu'une partie de toi est maintenue en esclavage. Ne t'étonne pas de ce que soudain tu perçoives tout en simultané, car là où nous sommes, nous avons tout le temps de la jouissive revanche. Regarde-les, tous ces fous mégalomanes qui font l'histoire de l'humanité. Regarde-les sombrer tous ensemble, happés dans un vortex d'opprobre, sous des huées éternelles qui leur font éclater le crâne, exorbiter les yeux et se vomir eux-mêmes. Assieds-toi au bord du fleuve, songe à ceux que tu considères comme de grands malfaiteurs de l'humanité, et tu verras passer leurs dépouilles que le vortex d'opprobre déglutira sous les huées auxquelles tu peux joindre ta voix, car la destinée s'est chipie à frapper dans ses mains. Les enfants, la récréation est terminée. C'était la défaite, d'une manière ou d'une autre, pour beaucoup de ces jouisseurs. La destitution, le bannissement, le suicide, l'accident d'avion ou d'hélicoptère ou de bolide, l'assassinat, la maladie, la déchéance, la folie, la guerre, la pendaison tête en bas ou le peloton d'exécution. Tu choisis ce qui te ferait plaisir de les voir supporter pour compenser tes chagrins quand tu penses à toutes les vies infernales auxquelles les injusticiers ont condamné leurs semblables. Les exemples que je pourrais t'en donner ne sont qu'infimes aperçus de ce que l'être humain a pu inventer de pire pour faire souffrir ce qu'il déteste le plus au monde, l'être humain. Toutes ces exactions qui font de ce monde un vaste jardin des supplices, comme de brûler vives des femmes accusées de sorcellerie, cela amusait le peuple de surcroît. D'enrôler des bandes armées abruties par la gnôle fortifiée à l'éther et que l'obligation d'obéir, les forces vives de millions de familles et de les lancer les unes contre les autres dans des combats à mort, qui abreuvent les sillons de sang pur pour faire de la terre un charnier fertile. Là, le peuple a moins rigolé, car il s'agissait de ses enfants. De continents faméliques, de vastes contrées squelettiques, en as-tu vu les enfants au ventre ballonné, aux membres trop grêles pour les porter, et n'ayant plus la force de chasser les mouches, cherchant de quoi s'abreuver au coin de leurs yeux à la dérive? Ne pouvait-on pas partager les récoltes de la terre au lieu de spéculer sur le cours mondial des céréales? Et ces canaux pneumatiques qui se dandinent obscènement sur les flots méditerranéens comme des bêtes de rodéo pour se débarrasser de leur surcharge en nombre de sombres humains crépus, aux dents aussi blanches dans le sourire d'espoir que dans le cri de détresse. Et dans une quasi-indifférence générale, ces canaux qui crèvent et lâchement se dégonflent ou se renversent et déversent leur cargaison humaine qui nourrira les poissons que, pêchés miraculeusement sur les rivages espérés et les continents désirés, d'autres humains mangeront. Drôle de manière d'atteindre le but, de se mêler aux heureuses populations finalement anthropophages sans trop le savoir. Maillon d'une chaîne alimentaire, à défaut d'être humaine. Ainsi qu'un mien ami qui avait séjourné sur une île lointaine où il avait adopté un de ses chiens errants, lequel avait quitté la meute, pour suivre ce bipède, moins indifférent que les autres au sort de la jante canine. Les autochtones avaient bien remarqué que cet homme et ce chien étaient attachés l'un à l'autre. Un jour, il décida de quitter l'île, mais ne pouvant emmener le chien, il le recommanda à ses amis locaux, qui l'assurèrent qu'ils en prendraient soin. C'était un chien spécial puisqu'il était devenu le compagnon d'un étranger respecté et apprécié. Avant son départ, ses amis de l'île le convièrent à un grand repas d'adieu, un succulent repas de fête, très gai avec des chants et des danses, et pour finir, un dernier discours du chef du village, dont la conclusion « Bon retour à tous les deux » le laissa perplexe, jusqu'à ce qu'il comprît qu'il venait de manger son chien. Face à tant de tendresse mutuelle, les villageois n'ayant pas eu le cœur de les séparer, les avaient ainsi réunis à jamais. Pour eux, c'était logique et naturel. Pour lui, c'était naïf, touchant et écœurant, et un fait accompli. Osmose gourmande. Ces tentatives désespérées pour aller survivre ailleurs dans les grisailles nordiques d'une Europe de moins en moins accueillante, quitter les pays chauds, comme disait ma grand-mère, ton aïeul, pour parler de l'Afrique, à quoi sont-elles dues? Ah oui, une pauvreté, la misère, fatale. Un exemple. Ne pouvait-on laisser cette Afrique produire ses propres poulets sans qu'elle eût à subir cet assaut de capitalisme sauvage au profit de gougnafiers français ou néerlandais qui, à vil prix, inondent de poulets congelés ces marchés au détriment d'un élevage local, autrefois pourvoyeur de travail et de revenus? Alors, de jeunes gens s'élancent vers un inconnu qui n'a rien à voir avec cet inconnu de luxe dont tu me parles, toi, petite privilégiée. Notre badinage épistolaire me fait penser à cette innocente de marquise qui, jamais que je sache, ne s'est avisée de s'élever contre l'entreprise titanesque de son bon roi Louis le XIV, la construction d'un château inutile et ruineux, un chantier décrété par pure mégalomanie d'un soleil qui s'éteindra dans la pourriture de son propre corps. A-t-on compté le nombre d'ouvriers morts à la radiation de cette tour de Babel horizontale? Non. Ces plusieurs milliers de morts n'avaient aucune importance, ni plus ni moins que ceux qui sont morts au Qatar cet an dernier pour construire des stades à l'occasion, toute neuve pour ce pays, d'une unique coupe du monde de je m'en foutisme exacerbé. Ainsi, toute époque sacrifie l'humain avec prodigalité, puisqu'il croît et se multiplie, jusqu'à encombrer tous les recoins de la planète de ces détritus immondes, ces sous-marins soviétiques, ces Titaniques, des avions de ligne avec leurs passagers et leurs bagages, des déchets nucléaires échoués sur les fonds marins, et surtout, notre contribution individuelle, quotidienne, pendant des années d'inconséquence, et moi la première, je te le confesse humblement, le plastique. Et le plastique, et encore le plastique, pourtant si pratique, que nous le pratiquâmes jusqu'à plus soif, jusqu'à abandonner la bouteille vide, là où nous l'avons vidée, sans y mettre aucun message, sans la jeter à la mer. Et pourtant c'est là qu'on la retrouve, avec des milliers d'autres, sur une charmante plage de l'île de Saint. Des milliers de bouteilles vides, de tout message, juste là pour dire, nous encombrons, nous polluons, partout, sur plein de charmantes plages. Je n'ose évoquer le nombre de sacs en plastique dont tu fis usage, toi aussi, provoquant à ton insu la mort d'un gentil dauphin quelque part dans le lointain océan Pacifique, là aussi où tous les sacs en plastique du monde se donnent rendez-vous, formant un continent stérile sur lequel, pour rigoler, il faudrait venir au moins une fois, en masse, chanter l'international. Ben oui, les sacs en plastique, c'est pas de l'Hermès, c'est du prolo. Quant au pouvoir créateur dont tu m'estimes doué, je dois humblement te répondre que je ne m'en crois pas doté. Ce pouvoir n'est pas à échelle humaine. L'être humain agence, combine et découvre. Ainsi, je n'ai rien créé et ne créerai rien. Je laisse cette responsabilité au suprême créateur auquel tu te doutes bien que je ne crois pas. Car la nature qui anime cette création dans laquelle nous nous mouvons tous nous démontre que pour créer, il faut être non point Dieu, mais deux. Alors dans la famille Dieu, je demande la mère. Voilà, tu voulais de l'inconnu. Et en fait, c'est une inconnue à la recherche de laquelle je te propose de consacrer un peu de ton temps. Vu la position qu'elle peut occuper dans l'ordre des choses, je pense qu'elle mérite ce surcroît d'attention de notre part à tous. Sans avoir pu combler ta curiosité aussi insatisfaite que la mienne, c'est sur ce mystère de l'enfantement du monde que je te laisse, chère nièce, avec toute mon affection, ta tante, André Cass, ou Cassandré. Petit post-scriptum, je me rends bien compte que les nouvelles que je t'apporte du fin fond de mon coin de création ne sont pas des plus réjouissantes, mais qu'aurais-je à te raconter si tout se passait pour le mieux du monde? Cela se résumerait en un lapidaire, tout va bien, stop, RAS, stop, super nouvelle, certes, mais un peu court pour faire une nouvelle.
Thank you.